Bonjour à tous. Avant de partager la parole, j'aimerais qu'on prie ensemble, que le Seigneur fasse grâce. Merci Seigneur parce que ta parole, Seigneur, est une sécurité pour chacune de nos vies. Nous avons, Seigneur, besoin encore, Seigneur, que tu nous parles ce matin, que tu nous aides, Seigneur, à mieux te connaître, à aller encore, Seigneur, d'avant, Seigneur, avec toi. Seigneur, ta parole aujourd'hui est encore suffisante, Seigneur, pour libérer, pour guérir, Seigneur, pour sauver. Et Seigneur, vraiment, je me place, Seigneur, devant ta face avec mes faiblesses, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Donc que je sois simplement, Seigneur, un instrument que tu utilises, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Un cœur reconnaissant ». Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, on va alors commencer par les versets 11 à 13. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire : Jésus, maître, aie pitié de nous. Il y a la Galilée, comme la Samarie, comme Jérusalem. Il y a des histoires particulières. Lorsqu'on lit dans Luc 4, Jésus a fait des miracles à Capernaum. Ensuite, quand il a été conduit à Nazareth, il est entré dans le temple, il a pris le rouleau, après avoir lu le passage qui le concernait, lorsqu'il a déclaré que cette parole est accomplie, les gens étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés parce qu'ils avaient entendu ce qu'il avait fait par ailleurs. Et puis, sa parole, cette parole qui venait de sortir. Mais comme dans un recul, dans un sursaut, certains se sont dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? Tu as beau faire ce que tu veux, tu es et tu demeures dans la tête de certains le fils de Joseph. Cela annule tout ce qu'il pouvait faire. Le regard qu'on portait sur lui, ce n'était plus le regard du Messie. C'était un regard d'une personne, somme toute banale, d'une personne qu'on a connue dans le passé, d'une personne qu'on a vue grandir. Et Jésus leur a dit, vous n'aurez pas de miracle. Et il leur a expliqué en disant, il leur a rappelé l'histoire un peu, qu'à l'époque du prophète Élie, il y avait des veuves en Israël, mais Dieu n'a pas envoyé Élie vers ces veuves pour qu'elles prennent soin de lui. Dieu l'a fait partir plutôt à Sarepta, où la veuve allait prendre soin de lui. Et de même, à l'époque du prophète Élisée, il y avait des lépreux en Israël. Mais il n'y a pas eu de lépreux guéri. C'est Naaman, le général syrien, qui a été guéri. Et lorsqu'ils ont entendu ça, ils se sont fâchés contre Jésus. Ils se sont saisis de lui et ils ont voulu le précipiter du haut d'une falaise. Jésus sait ce que c'est qu'être méprisé, le fils de Joseph. Il sait ce que c'est être rejeté. Ils ont voulu le tuer. Si on prend la Samarie avait une situation particulière. En Samarie, ils n'avaient pas chassé les païens, ils ont vécu avec des païens et ils ont eu un culte mélangé. Il y avait du syncrétisme en Samarie. Du coup, les Juifs ne pouvaient pas correspondre sur le plan religieux, sur le plan spirituel avec les Samaritains, parce qu'il y avait eu, il y avait cette histoire. Et qui plus est, ils adoraient Dieu sur le mont Garizim. Comment aller au contact de ces personnes qui, au lieu d'adorer le Dieu vivant et vrai, font des mélanges dans leur vie spirituelle. Donc souvent, les Juifs préféraient éviter complètement la Samarie, faire un grand détour s'ils devaient se déplacer, simplement pour ne pas se retrouver dans ce pays qui était souillé pour eux. Donc, dans la tête des personnes, les Samaritains étaient méprisés. Ils étaient à éviter. Pour moi, ce matin, peut-être que tu es dans cette situation-là, où on t'a collé une étiquette, cette étiquette que tu n'arrives pas à enlever. Ou là où tu es méprisé. On ne fait aucun cas de toi. Jésus l'a vécu. Il sait ce que ça veut dire, être méprisé, être rejeté. Mais dans ce récit, Jésus se rend à Jérusalem, la ville du roi, la ville où on adore le Dieu vivant et vrai. Et ce matin, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur te dit de ta situation, lève-toi. Suis-moi. Allons, viens adorer, viens louer ton Dieu, viens adorer ton Dieu. Ce que tu vis, je l'ai vécu. Je sais, j'ai moi-même été rejeté. Ceux que j'avais nourris, ils m'ont insulté. Ta souffrance, ta douleur, je peux la partager. Est-ce que tu peux la confier au Seigneur ce matin? Lui apporter tes soucis, lui apporter tes problèmes. Et comme on l'a entendu simplement, sois mon Seigneur. Règne sur toute ma vie, pas des compartiments, mais sur toute ma vie. Et alors, entre dans la louange et l'adoration de ton Dieu. Le Seigneur ne veut pas nous contrôler. Il veut nous rendre libres. Mais ce sont souvent nos soucis, nos fardeaux qui nous emprisonnent. Qui ont une mainmise sur notre vie et que cela nous empêche souvent de pouvoir aller plus loin avec le Seigneur, de pouvoir nous réjouir comme nous recommande la parole. Réjouissons-nous en tout temps. Et dans cette histoire, il y a 10 lépreux. La lèpre à l'époque, la lèpre a été une maladie très avilissante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à voir des photos de lépreux. Alors la lèpre, elle commençait souvent par des plaques. Ensuite, elle se mettait à vous ronger les membres. Elle vous rongeait les membres et elle finissait par vous tuer. Mais dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, Dieu dit au peuple d'Israël comment est-ce qu'il faut agir lorsqu'on est face à un cas de lèpre. On devait aller se présenter auprès des sacrificateurs qui, eux, examinaient et constataient ou non votre maladie. Et si vous étiez malade, vous devez partir, sortir du groupe pour ne pas contaminer le groupe. Pour certains, les vêtements étaient brûlés justement pour sortir l'impureté du groupe, pour que tout le peuple ne soit pas contaminé. Cela peut vous sembler peut-être dur, mais en 1929, donc je vous parle du Deutéronome, en 1909, pardon, il y a la Société des maladies tropicales qui, face au fléau de la lèpre, à trouver une solution, il fallait construire les léproseries et enlever les lépreux du milieu du peuple. Merci Seigneur pour ta sagesse. Combien d'années est-ce qu'il a fallu pour comprendre? Donc il y avait cette vie à l'écart. Et lorsque les lépreux voulaient venir à un endroit, ils étaient obligés de crier pour qu'il y ait une distance qui reste entre eux et les personnes qui étaient là. Ils étaient déclarés impurs. Aujourd'hui, l'OMS a déclaré en 2000 que la lèpre était éradiquée de la surface de la terre. Et moi, je pense à une autre forme de lèpre. Le péché. Le péché est une forme de lèpre qui peut commencer tout doucement et finir par nous détruire. Si on prend dans Jacques 1, versets 14 et 15, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir qu'on soit et donne naissance au péché. Vous voyez, c'est tout doucement, c'est progressif. C'est cette lèpre-là qui se met à nous ronger, qui nous ronge si nous ne faisons pas attention. Comme pour l'ordonnance que l'Éternel a donnée au peuple d'Israël, lorsque tu as été atteint par le péché, on va te présenter au souverain sacrificateur qui est Jésus, celui seul qui te délivre, qui te purifie. Va te présenter à lui et rétablis toutes choses. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Nous n'avons pas à jouer avec le péché. Vous savez, c'est le péché qui a conduit Jésus à la croix. Si nous souvenons que dans tout ce que je peux faire, lorsque je pêche, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a payé le prix pour que je sois, pour que tu sois libéré. Et dans Galates 5, 19-21, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Voilà la conséquence du péché. Ce qui est décrit là, ce ne sont pas des choses, voilà, forcément très dures, très compliquées, des envies. C'est tout léger, mais c'est un péché. Voyez-vous? Le péché a toujours quelque chose d'attirant. Sinon, on ne pécherait pas. Je suis convaincu qu'au moment où la tentation elle est là, si on pouvait avoir Satan comme on le dessine parfois, on reculerait au moins une fois. Mais il y a quelque chose. Parce que c'est la chair, parce que le péché plaît à la chair. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la victoire sur le péché. Christ a payé le prix et nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Mais j'irai plus loin. Si tu es peut-être dans une situation où tu te dis, Seigneur, je n'en sors plus, j'irai prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi de rencontrer un frère ou une sœur de confiance avec qui je peux prier, avec qui je peux partager. C'est important, frères et sœurs. Il s'agit de l'éternité. Il s'agit de l'éternité. On ne peut peux pas jouer. Prenons ça suffisamment sérieux. Et je me dis, il y a la culpabilité avec laquelle l'ennemi, Dieu ne nous culpabilise pas. Il nous reprend. Mais la culpabilité, c'est au fait, si je vais dire à tel ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et c'est fini, c'en est fini. Dieu n'agit pas de cette manière. À qui vas-tu faire confiance? À cette culpabilité ou au Seigneur qui te dit, bah, j'ai payé le prix de la croix. Je suis avec toi. Je suis vainqueur. Le Seigneur ne te repoussera jamais. Toi, tu peux l'abandonner, mais jamais lui. Il veut te secourir. Et moi, la deuxième forme de lèpre, il y en a plusieurs. La deuxième forme de lèpre à laquelle j'ai pensé, c'est l'isolement. Nous vivons un siècle des médias, c'est puissant, c'est impressionnant, le nombre de mails qui circulent. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, je crois que c'est de manière certaine. La nuit de la Saint-Sylvestre, donc entre le 31 janvier et le 1er, non, 31 décembre et le 1er janvier, ce sont des milliards de mails qui circulent. Imaginez-vous tout ça. Comment peut-on être seul? Comment peut-on être seul à l'aide de... À l'année, la période de Facebook, de Twitter, tout ça. J'aime entendre les jeunes lorsqu'ils disent sur Facebook, j'ai 200, 300 amis. Waouh, c'est bien ça. Mais il y a une autre réalité derrière. Lorsque tu ne vas pas bien, vers qui est-ce que tu te tournes? Parce que tu te retrouves seul dans des problèmes. Je me souviens d'un témoignage, c'était une émission, c'est quelqu'un qui était victime du burn-out, pas burn-out, un burn-out. Personne, voilà, elle n'avait plus, on l'avait mise au placard, donc elle ne savait plus quoi faire, elle n'avait plus rien à faire. Au moment où le reportage commençait, on montrait le bureau de la personne, un téléphone, un ordinateur. Je lui dis intérieurement, mais attends, de quoi se plaint-il? Tu fais Internet toute ta journée, personne ne t'embête. Non. Les premiers temps, les collègues avec qui il était dans des autres bureaux venaient le chercher encore pour les pauses. Ils allaient ensemble faire leur pause, ils allaient déjeuner. Progressivement, ils ont commencé à l'oublier. Et du jour au lendemain, plus personne ne venait le prendre pour la pause ni pour aller déjeuner. Il était seul. Le téléphone ne sonnait jamais. Il se levait le matin, toute une journée. Il sortait pour aller manger, il revenait seul. Je me suis dit, Seigneur, combien au milieu de nous sommes seuls. Peut-être tu te dis, oh Seigneur, enfin le dimanche, je vais me retrouver avec des frères et sœurs. Mais ta hantise, c'est que le culte s'arrête et que tu repartes sans que quelqu'un ne te salue. Sans que quelqu'un ne te fasse un beau sourire. Rassurez-vous, je ne vais pas mettre toute la journée à prêcher, je n'ai pas la force. Mais c'est juste, je me dis, il y a le service accueil, ils ont des badges à l'accueil. Mais nous sommes tous virtuellement ou spirituellement dans le service accueil. Une poignée de main franche, un sourire. L'apôtre Paul disait, embrassez-vous par un saint baiser. Vous avez peut-être peur des microbes, c'est la période, voilà. Mais bon, c'est pas... Ok, au moins, salue ton voisin. Fais-lui un beau sourire. Si je suis conscient que la personne qui a peut-être de moi a l'Esprit de Dieu en elle. C'est comme si je saluais Jésus. Je suis sûr que si là, le Seigneur apparaissait là, on allait tous courir. Là, Seigneur, oui, écoute bien, prends ma place. Le Seigneur nous appelle à le vivre, que ce soit notre quotidien, que ce ne soit pas exceptionnel, que quand quelqu'un entre ici, qu'il sente qu'il est accueilli dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce sont des situations qui sont lourdes, qui pèsent et qui ont entraîné certains au suicide. Faisons la différence. Faisons la différence. Jésus a fait la différence à son époque. Il a fait une différence phénoménale à son époque. Il est allé, il était à table avec les prostituées, les gens de mauvaise vie ont dû lui reprocher. Mais il est venu pour eux. Lorsque moi je me considère, je me dis, Seigneur, quelle grâce. Toi qui es trois fois saint, tu m'as voulu en ta présence. Et les preuves, ils ont crié, ils ont certainement entendu Jésus arriver, ils ont crié. Il y a cette démarche qu'il faut faire. Nous avons à faire notre part. La démarche d'aller vers le Seigneur, la démarche de chercher notre secours auprès du Seigneur. Moi, il y a cette parole qui me réconforte toujours quand je suis dans l'épreuve. L'Éternel déclare qu'il ne laissera pas son juste tendre les mains vers lui. Je me dis, Seigneur, je ne suis pas, c'est toi qui me justifie. Seigneur, l'épreuve, elle est peut-être dure, elle est compliquée, je vous assure, il y a des moments. Je dis, Seigneur, je ne peux plus. Et je me dis, Seigneur, béni soit ton nom, parce que tu ne laisseras pas que j'étende les mains vers le mal. C'est pour chacun d'entre nous ici présents. Le Seigneur a déclaré qu'il ne laissera pas que tu tendes les mains vers le mal. Mais derrière ça, il y a un prix à payer qui est l'obéissance. L'obéissance est un prix qui parfois est difficile à payer. Et les preux, ils ont respecté la distance qu'il fallait pour s'adresser à un groupe. Imaginez-vous, dans leur situation, voilà, vous êtes dans une situation désespérée, j'en peux plus. Et puis, une occasion. Il faut foncer, il faut la saisir. Non, ils sont restés dans cette attitude-là. Que déclare la parole? Je dois rester à distance. Vous savez, quand vous passez dans la moulinette, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des occasions bizarres qui se présentent devant vous. Dieu ne veut pas nous bénir dans la compromission. Dieu nous bénira toujours dans l'obéissance. Je voulais me laisser trois versets dans Romains 2, 11. Dieu ne fait exception de personne. Tel que tu es, dans ta condition, viens, crie au Seigneur. Son désir est de te rencontrer là où tu es, de te renouveler, de te changer, de te transformer. Toi, fais-lui confiance et viens au Seigneur. Dans 1 Jean 9, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais juste avant de continuer qu'on puisse peut-être prier. C'est pas la chose. Prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se débattent dans des situations compliquées. La seule chose que je peux vous dire, la solution, c'est le Seigneur. On prie pour toutes ces situations-là. Voilà, que le Seigneur vous aide. Seigneur, tu tu connais chaque vie ici présente. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé. Et ton désir est de nous rendre parfaitement libres. Seigneur, là où il y a des situations compliquées, des situations de péché, Seigneur, nous n'avons pas peur des mots. Seigneur, aide. Pose ta main, Seigneur. Brise, Seigneur, toutes ces chaînes, afin, Seigneur, que tes enfants soient pleinement libres. Qu'ils soient libres, qu'ils soient vainqueurs de toutes ces situations dans lesquelles ils se trouvent. Pour que leur vie, Seigneur, te glorifie parfaitement. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Alors, Seigneur, nous prions, Seigneur, à toi pour nos bien-aimés, Seigneur, qui se débattent, qui peut-être ont perdu complètement courage. Mais ce matin, dans ta grâce, relève-les, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Entends, Seigneur, leurs prières et du haut des cieux, Seigneur, exauce, qu'ils soient pleinement libres, Seigneur, pour te servir. Te prions aussi pour ceux qui parmi nous, Seigneur, souffrent de la solitude. Seigneur, viens à leur secours. Console-les. Renouvelle-les, Seigneur, dans ton amour. Par ta présence, Seigneur, interviens. Et, Seigneur, agis. Aide-nous, Seigneur, chacun, Seigneur, pour notre part, à accueillir comme toi tu nous as accueillis. Seigneur, à aimer comme toi tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, si nous nous regardons au fond de nous-mêmes, Seigneur, nous réalisons parfois combien nous ne sommes pas aimables, mais toi, tu ne changes pas et tu continues à nous aimer. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Agis encore, Seigneur, ce matin dans les cœurs, pour la gloire de ton nom. Amen. Au verset 14, lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Le Seigneur ne dit pas « Vous êtes guéris. » D'ailleurs, ça aurait été facile pour eux. « Vous êtes guéris, c'est fini, c'est bon. » Encore une fois, le Seigneur Jésus lui-même est dans cette attitude d'obéissance à la parole. Il les envoie vers ceux qui sont habilités à reconnaître qu'ils sont guéris. Lui-même est obéissant. Lui-même est obéissant. Et ces lépreux manifestent une foi, je dirais exceptionnelle, parce qu'ils ne voient rien, pour l'instant, ils n'ont rien vu. Mais sur la parole de Christ, ils s'en vont. De quoi avons-nous besoin de plus? C'est la parole. Moi, j'aime ce passage dans la Bible où il est déclaré « La parole de Dieu est puissance. » Ce n'est pas puissante, mais elle est puissance. Si nous nous souvenons que Dieu a créé tout l'univers et que l'univers, dans ce qu'il est, cet équilibre exceptionnel, ce n'est que pour la parole de Dieu, c'est rien d'autre. C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui, aujourd'hui, est encore capable de guérir, de délivrer, de restaurer. C'est la parole de Dieu. Quelle importance accordons-nous à cette parole? Je ne suis pas grand amateur de vin. Mais imaginez-vous, vous prenez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme grand cru? Sauvignon, non, je vais aller dans le champagne, c'est plus facile. Alors, imaginez-vous, vous prenez un Dom Pérignon. Un Dom Pérignon ou un cristal. Vous mettez de l'eau là-dedans. Ah oui, il y a Jacques qui fait une grimace là. Frères et sœurs, arrêtons de mettre la parole, l'eau dans la parole de Dieu. Elle perd son efficacité. Et ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus sa parole. Lorsque nous la transformons, ce n'est plus la parole de Dieu. Prenons-la telle qu'elle est. Elle n'est pas toujours facile. Je l'avoue, elle n'est pas toujours facile à saisir, mais faisons-lui confiance. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Personne. Et lorsqu'il donne sa parole, c'est pour ton bien. Je me souviens un jour, j'étais avec mon fils dans la voiture. Un matin, je t'entends lui dire, écoute, Emmanuel, quand je te demande d'obéir, c'est pas pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime. Je lui dis, mais pourquoi tu n'obéis pas? Et je lui parlais on était au feu, et puis à un moment donné, au fond de moi, je sens, et c'est ce que j'attends de toi aussi. La parole de Dieu, elle est pour nous. Elle est là pour nous faire du bien. Que voulons-nous de plus? La parole de Dieu, elle se suffit. Elle se suffit. Rien d'autre. Mettons notre foi dans le Dieu vivant et vrai, dans tout ce qu'elle peut comporter. Alors, nous pouvons de grandes choses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas dit, tu verras la gloire de Dieu et tu croiras. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais parfois, on se dit, mais Seigneur, comment se fait-il qu'en Afrique, qu'en Asie, qu'on entend qu'il y a tant de miracles, et ici, il n'y en a pratiquement pas. L'explication, il y a plusieurs explications possibles, hein, mais il y a une qui me semble évidente. Quand vous allez dans les coins reculés en Afrique ou en Asie, lorsque quelqu'un est gravement malade, si vous attendez d'avoir un médecin, il est mort. Il est mort, il n'y a plus rien. La seule chose que les chrétiens ont, c'est la prière. C'est la seule chose. Ils y croient dur, et voilà pourquoi est-ce que Dieu agit. Je bénis le Seigneur pour la médecine, pour l'intelligence qu'il a donnée aux hommes. Mais apprenons à réaliser que ce chirurgien, aussi doué soit-il, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Apprenons à aller au-delà de ces situations, de ce que nous voyons, et reconnaissons la main de Dieu. Et rendons-lui gloire. Nous voulons aller plus loin avec le Seigneur. C'est comme s'il me dit, écoute, voilà Thierry, vas-y, saute, je suis là. Je dis, Seigneur, je ne te vois pas. Allez, vas-y, saute. C'est ce qu'il a fait avec les lépreux. Allez-y. Il n'y avait encore rien. Ils ont cru, ils sont partis, ils ont été guéris. Qu'est-ce que le Seigneur te dit qui te semble impossible? Fais-lui confiance. Il ne t'abandonnera pas, il te conduira jusqu'au bout. Si c'est lui qui t'envoie, il a déjà tout prévu. Ce n'est pas un méchant maître. Il est bon. Il est bon. Moi, je me dis souvent, nous avons, pour ceux qui sont salariés, et même les retraités, nous avons une grande foi dans le système. Qui est-ce qui vous garantit que le système financier sera encore debout demain? Et nous faisons comme si on va être payé normalement. On a déjà fait notre budget. Oui, c'est bien, il faut le faire. Mais on croit dur comme fer que même s'il y a un jour de retard, on a déjà engagé les dépenses. Quelle foi! C'est une grande foi. Seigneur, ayons. Dieu, lui, il est fidèle, il ne change pas, il ne peut pas nous trahir, il est infaillible. Que le Seigneur nous aide à entrer dans cette foi-là. Cette foi qui déplace les montagnes. Le Seigneur n'a pas dit d'avoir une grande foi. C'est la foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire que c'est pas foi, non. Mais si cette foi, comme un grain de sénévé, elle est placée dans le Dieu Tout-Puissant, alors elle est agissante. Hébreux 11.1, voici ce que vous avez dit sur la foi. Or, la foi est une forme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ils ont espéré la guérison. Christ a parlé. Ils ont cru. Ils ont été guéris. Versets 15 à 19. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Samaritain, encore. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Imaginez un peu la scène. Il saute partout, mais si vous le rencontrez, il est devenu fou là. Il a un sérieux problème. Mais il sait, lui, ce qu'il vient de vivre. Vous voyez la différence? Si tu sais ce que tu as vécu, lâche-toi. Peu importe qu'on te dise que ça y est, tu as perdu la tête. Non, ça peut l'être. Toi, tu voulais être guéri? Tu as été guéri. D'accord? D'accord? Alors, pourquoi est-ce que les louanges sont si timides? Pourquoi nos louanges sont si timides? Quelqu'un a été bénéficié de la grâce de Dieu ici? Quelqu'un a été bénéficié de la grâce de Dieu? C'est bizarre. Je croyais que ça allait être toute l'église. Attendez. Oh là là. Par où commencer? Est-ce que quelqu'un appartient à Jésus ici? Bon. Alors, vous estimez qu'appartenir à Jésus, c'est la moindre des choses? Non? Mais là, c'est la plus belle chose! Attendez. Bon. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière, de l'enfer au ciel. Vous me donnez l'impression que c'est la plus petite des choses. Au ciel, plus de douleur, plus de souffrance, plus de pleurs, rien de tout ça, plus de factures à payer. Attendez. Voilà pourquoi nous devons bénir le Seigneur, être reconnaissants tous les jours au Seigneur. Si nous négligeons le salut en premier, nous avons un problème. C'est que nous n'avons toujours pas compris l'essentiel. Vous pouvez avoir des milliards si vous ne connaissez pas Dieu. Si vous atteignez 100 ans, pas mal. Mais après, que va-t-il se passer pour vous? À quoi nous aurons servi le milliard? Réalisons que dans ce que nous venons de lire, je vais prendre le chiffre inversé, c'est 90% d'ingratitude. 9 sur 10, 90% d'ingratitude. Je me suis posé la question sur mon propre vie. J'aime ce bon vieux cantique qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras en adorant combien le monde est grand. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème, j'en ai. Non. J'ai tout ce que je voulais. Mais je veux me souvenir de ce que Dieu a fait et continue à faire dans ma vie. C'est là le plus important, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Réaliser qu'il est là. Réaliser que chaque matin, il est. Je me lève, je me réveille, il est déjà là. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Ses bontés, sa compassion pour moi. Aujourd'hui est fini, demain est fini. Donc ça ne sera jamais épuisé. Alors apprenons à lui rendre grâce, à le glorifier. Je peux être dans les problèmes, mais qu'est-ce que je préfère confesser? La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Ou les problèmes auxquels je dois faire face. Que le Seigneur nous aide. Et ce qu'il dit, c'est l'étranger. Et je me suis dit, Seigneur, peut-être qu'à force de bénir, d'entendre que nous sommes sauvés, d'entendre que tu es le Dieu de grâce, nous avons fini par être blasés. Nous avons fini par être blasés. Retrouvons cette fraîcheur. Cette fraîcheur qui nous donne envie chaque jour. Je vous laisse vivre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Qu'as-tu passé comme concours pour être là ce matin? Pour ne pas avoir d'accident sur la route. Qu'as-tu comme mérite d'être encore vivant? Moi, je n'en ai pas. C'est cette grâce-là, c'est être reconnaissant dans ce moindre, dans ces petites choses que nous appelons petites choses de la vie, alors que ce sont des choses très importantes. que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce qui est bon, c'est cette promesse. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas de problème. C'est faux. Bien au contraire. Bien au contraire. Il a dit, si nous voulons le suivre, nous allons vivre même chose que lui. Mais il sera là. Il sera là pour nous aider, pour continuer avec nous, pour nous donner de sortir avec nous. Je me dis dans Actes 1, 8, lorsque Jésus parle à ses disciples, il leur dit qu'une puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Comment pouvons-nous être témoins de Jésus si nous ne sommes pas capables de manifester son amour, si nous ne sommes pas capables de manifester sa joie? Dans Néhémie 8, verset 10, l'Éternel déclare, ma joie sera votre force. La joie de l'Éternel est ta force. Saisis-le, ce sont des réalités que nous devons saisir. Christ a tout fait, Christ a payé, Christ a tout donné pour que tu aies la victoire, pour que tu vives une vie de victoire. La parole déclare que Dieu a dit oui et amen à toutes ses promesses en Jésus. Si tu tiens Jésus, si tu es en Jésus, alors toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Apprenons simplement à vivre. Ce sont des réalités que nous devons vivre. Ce sont des réalités. Nous sommes appelés à, autour de nous, à manifester le royaume de Dieu. Pour terminer, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout ce que tu es, je ne dis pas ce que tu as. Tout ce que tu es. Simplement à reconnaître Dieu dans nos âmes. Au fur et à mesure que nous allons apprendre à le glorifier, à prier, à demander, à nous rapprocher de lui, nous allons voir nos vies être transformées. Et ce sera visible autour de nous. Ce sera visible autour de nous. Quand tu te souviens de ta conversion, des premiers jours, regarde jusqu'où le Seigneur t'a porté. Sachons simplement lui rendre l'honneur et la gloire qui nous revient. Que le Seigneur nous aide encore.